Je vous propose un passage que certainement vous n'avez pas vu récemment, hein, il y a peu de chance, hein, mais dans 2 Chroniques, chapitre 29. 2 Chroniques, je vous donne le temps de trouver. 2 Chroniques, chapitre 29, et à moins que vous ayez lu récemment toute votre Bible, vous n'êtes peut-être pas passé par là. 2 Chroniques, chapitre 29, et il s'agit du roi Ézéchias. Ézéchias, c'est l'un des grands rois du royaume de Juda. C'était bien sûr David était celui que le vraiment connu, Salomon. Mais après, Ézéchias était un qui, en tous les cas, pendant les premières années de sa vie, était entièrement au Seigneur, d'une manière comme David. Et son nom signifie Jéhovah, ma force. Il était contemporain à Ésaïe, le prophète, à Michée, à Nahum et à Osée. Hein, donc c'était tous, ont été là pendant, ont été prophètes pendant son époque. Pour vous situer par rapport à l'histoire, eh bien, Ézéchias était roi entre 715 et 686 avant Jésus-Christ. Donc à peu près entre 7e et 8e siècle, à la limite des deux. Le royaume du Nord, hein, parce qu'après Salomon, le royaume a été divisé. Et donc Juda et Benjamin sont restés ensemble, et puis les autres 10 autres royaumes, tribus, les autres 10 autres tribus ont formé un autre royaume. Mais ici, à l'époque de Ézéchias, le royaume du Nord a déjà été entraîné pour la plupart des gens. Ils ont été emportés en exil par l'Assyrie, et ils ne sont jamais revenus. Hein. Donc ils sont, on parle des tribus dispersées. On n'a pas de traces. Il y a des gens qui ont avancé des idées, mais bon, il n'y a pas de traces. Ils ont perdu leur identité. Ce que, bon, on peut reconstituer, Dieu, le Seigneur va reconstituer les 12 tribus, parce qu'il y avait des gens de ces tribus-là qui, quand même, sont restés attachés à Dieu et qui sont venus et ont habité parmi, dans Juda. Et donc, pas mal de gens connaissaient encore leurs origines, quelles tribus appartenaient. Comme par exemple Anne, qui était dans le temple quand Jésus est venu, elle savait de quelle tribu elle appartenait, même si elle était d'une de ces tribus perdues. Mais apparemment, c'était sa famille s'était déplacée dans le royaume de Juda et donc n'a pas été emportée. Donc les 12 tribus existent toujours. Hein, le Seigneur pourra les retrouver toutes pour l'Apocalypse, mais voilà. Donc c'est à cette époque-là, Ézéchias sait que le peuple du royaume du Nord se sont éloignés de Dieu, ils ont adoré le veau d'or, et puis le jugement est apporté, et maintenant le royaume de Juda, hein, est en train de suivre le même parcours, et Ézéchias dit non, arrêtons, il faut corriger cela. Et donc, ce sera un peu son ministère. Son grand-père, Jotham, avait pour mère Jérusha, fille de Tsadok, qui était un prêtre fidèle à l'Éternel. Et il dit du grand-père d'Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Ozias, son père, seulement. Et Ozias avait, dans l'orgueil, était rentré dans le temple et a été frappé par la lèpre. Mais sinon, Jotham, et il y avait son épouse, Tsadok, qui était fille du prêtre et qui était fidèle à Dieu. Ensuite, ils ont eu Achaz ou Akaz, et c'était donc le père d'Ézéchias. Et lui, il ne fit point ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, et le nom de sa mère n'est pas donné. Donc ça a été jugé comme pas important. Et ensuite, il y a Ézéchias. Donc il y a un père qui s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie. Eh bien, mais son père était marié à Abija, fille de Zacharie, qui apparemment était croyante. Et il est dit donc il sera dit d'Ézéchias qu'il a fait, et vous voyez là au début du chapitre 29, donc au verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père, de plusieurs générations. J'ai dit tout ça, c'est assez compliqué, vous dites oui, mais c'est pour peut-être souligner l'influence de la mère. Parce que finalement, on a cette impression dans ces trois générations que c'est finalement ce qui a fait la différence, c'était la maman croyante. Et je dirais en passant que si vous avez encore l'opportunité de choisir la mère de vos enfants, eh bien choisissez une qui les influencera pour le Seigneur. Il ne suffit pas de trouver une qui me plaît aujourd'hui. Trouver une épouse qui sera une bonne mère. Je me rappelle, on était mariés, et puis mon père qui demande à mon épouse, il lui dit, mais est-ce que quand tu as accepté de Steve, eh bien, est-ce que tu t'es posé la question pour savoir s'il serait un bon père pour tes enfants ? En général, on ne pense pas aussi loin. On pense déjà, je pense à mon plaisir déjà d'aujourd'hui. En fait, quand on se marie pour quelques années. Et puis, ça devient les parents de nos enfants. Et ça a beaucoup d'influence. Et donc, je dis ça en passant, pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'on a des jeunes qui ont encore cette opportunité de faire des choix. Eh bien, pensez à cela. Parce que c'est la maman... La maman a une grande importance. Elle fait l'épouse fait la température dans le foyer. C'est un peu. Elle n'est pas le thermomètre. Elle est le thermostat. Elle n'est pas là pour constater la température de la maison. Elle est là pour faire la température de la maison. Déterminée. Et elle fait le bonheur ou le malheur de la maison. Bon, le monsieur, il peut casser les choses aussi. Mais je voulais souligner l'importance de la maman. De nos jours, ce n'est pas le cas, on n'en parle pas de cette manière-là, mais dans l'Écriture, ça reste une réalité. Voilà, alors, mais ce que nous voulons surtout ce matin, et en fait, continuer dimanche prochain, c'est voir la recette pour une restauration spirituelle totale. Parce que là, le royaume de Juda va mal. Il s'est détourné de Dieu complètement. Vous allez voir, le temple est complètement fermé. Les portes sont emmurées presque. Et ça y est, on a mis Dieu de côté. Et Ézéchias veut ramener le peuple à Dieu. Donc c'est ce qu'on peut lire dans 2 Chroniques, chapitre 29, 30 et 31. C'est un peu ce que... Alors nous, on ne va pas pouvoir voir tout cela ce matin, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais ce que nous voulons voir, c'est un peu les étapes, comment il s'est pris. Parce que c'est une chose de le vouloir, c'est autre chose de le réaliser. Donc, lisons déjà, nous allons lire les premiers versets. Donc, je commence au verset 3. Il dit, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. On a comme cette impression, vous savez, c'est pas comme ça tout d'un coup, il s'est réveillé puis il dit, ah bah tu es roi. Non, non, il savait qu'il était roi, il a 25 ans, il comprend, il voit l'état de son père et il sait que, parce que... Il y a du flottement là entre les deux royaumes. Et donc, Ézéchias a l'opportunité de se préparer, de se dire voilà ce que je vais faire, de se donner un programme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parce qu'il a les pensées spirituelles, il cherche le bien de Dieu, eh bien pour lui, la première chose, la chose la plus importante, c'est de commencer par ouvrir le temple. Le temple de Salomon à l'époque. Hein. Et donc il commence le premier mois de sa première année de son règne, dès le début, première chose, eh bien, c'est ce programme, c'est d'ouvrir le temple. Vous savez, de nos jours, on élit des présidents, puis après, on attend 100 jours, et puis on les évalue. Comme si on pouvait faire quelque chose en 100 jours. Surtout quand c'est la pagaille. Hein, c'est une chose... Mais là, Ézéchias, eh bien, il a cette priorité. Il dit, je veux mettre de l'ordre, ça ne va pas, il y a du désordre dans le royaume, mais on va commencer par Dieu. Hein, ça vous fait penser peut-être à ce chant qu'on chante facilement. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis tout le reste viendra dans l'ordre. Toutes ces choses vous seront données en plus. Hein? Et justement, Ézéchias a cette priorité. D'abord, on commence par le temple. Et c'est une première chose, c'est d'ouvrir les portes. Les portes sont fermées. Et certainement qu'il s'agissait plus que juste une question de, entre guillemets, tourner la clé. Hein. C'était certainement des barres qu'on mettait à l'époque. Et donc, d'où cette expression qu'emploient les Suisses et puis je crois les Canadiens aussi. Hein, c'est la porte est barrée. Hein, mais certainement, c'était plus. Parce que j'ai regardé ce mot « ouvrir les portes » et le mot « ouvrir », tel qu'il est utilisé, il est utilisé 7 fois dans le livre des deux chroniques, et 3 fois, c'est traduit par sculpter, par tailler. Et d'où l'impression que j'ai, c'est que les murs, les portes ont été emmurées. C'est carrément fermé pour de bon. Et ils étaient arrivés au point où on n'a plus besoin, et on passe à autre chose. Ils avaient d'autres divinités. Et donc, c'est ouvrir les portes, ce n'était pas juste une question, on ouvre la porte aujourd'hui. Non, non, c'était une question de vraiment créer le passage, rouvrir le passage. Si vous avez visité les Jérusalem de nos jours, hein, vous savez qu'il y a une des portes qui est encore fermée, emmurée, hein, et qui sera ouverte parce que c'est par là que le Christ va rentrer. Mais pour l'instant, elle est fermée. Mais là, eh bien, Ézéchias ouvre la porte et c'est pour ça qu'il est... Il part de devoir réparer les portes aussi. Hein, donc, il ouvre et puis il met de l'ordre. Et donc, vous savez aussi, c'est pas seulement le fait de vouloir dire « Oui, mais je veux le Seigneur. » Et puis, parfois, on dit « Oui, je le veux. » Mais parfois, vous savez, c'est pas si évident que ça. Et dans nos vies personnelles, ou peut-être que vous pensez au moment où vous avez commencé à vouloir vivre pour le Seigneur, eh bien, vous avez rencontré des obstacles, et on pourrait même dire des obstacles formidables, dans le sens d'imposants, des problèmes colossaux. Il nous dit, vous savez, vous avez peut-être dû surmonter le problème d'un emploi du temps déjà rempli. Parce qu'on vient au Seigneur et tout d'un coup, après, l'emploi du temps doit être changé. Qu'est-ce qu'on fait sauter? Et ça ne se fait pas en une nuit. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a décidé, ça y est, on va à l'église. Mais ça change tout hein, quand on commence à aller à l'église. Ou bien ça peut autre, ça se peut aussi qu'il y a les problèmes, les obstacles de la tradition. Nous, on n'a pas l'habitude de faire les choses de cette manière-là. On passe nos dimanches autrement. On a ceci, cela. Parfois, on peut avoir... il y a des relations... et qui mettent une tension. Parfois, il y a de l'opposition de la part d'amis ou des membres de la famille, tout ça. C'est des obstacles. Ce n'est pas si évident que ça, ouvrir la porte du temple dans notre vie. Hein, surtout si ça a été fermé, soit parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur, soit parce qu'on s'est éloigné du Seigneur et on a commencé à vivre une autre vie, et puis on veut revenir. Ce n'est pas évident de revenir. Et là, Ézéchias est déterminé, on va ouvrir les portes du temple. On va recommencer à adorer le Seigneur. Parfois on est obligé d'y aller avec les forceps, hein, de vraiment, avec détermination, je force, je vais le faire, et je vais commencer à adorer le Seigneur, je vais commencer à vivre pour le Seigneur. Et c'est une première démarche. Hein, c'est une première démarche. Et nous devons être prêts à le faire. Hein, ça ne suffit pas d'être là devant le temple et puis dire ben, j'aimerais bien adorer le Seigneur là-dedans, mais bon, je suis prêt à casser et puis à bousculer des choses et tout ça. Bon, et puis on reste. Non, non. Ézéchias a dit on ouvre. Et on va pouvoir passer. Donc la première chose est dans cette restauration, où soit vous êtes au début de votre vie spirituelle et donc on rentre pour la première fois, soit c'est un domaine qui a été fermé pendant quelque temps parce qu'on s'est éloigné du Seigneur, on a été distrait, tout ça, et on veut reprendre, eh bien il faut commencer par ouvrir les portes du temple. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est que Ézéchias va ordonner, c'est celle de la sanctification des Lévites et la sanctification du temple. Et alors lisez avec moi à partir du verset 5, où je vais lire, commencer au verset 4. Il dit, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale. Il leur dit, écoutez-moi Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de nos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Voilà la prochaine démarche. C'est pas seulement on a ouvert la porte, ah ben c'est bon maintenant, c'est la porte est ouverte. Non, non. Après, il y a une démarche à faire, c'est celle de purifier. Et remarquez que il y a d'abord une mobilisation. Hein, il faut recruter, il recrute du monde, et il commence par, je crois que nous on aurait peut-être commencé par dire, ben on fait le ménage, hein, allez, on fait le ménage du temple, et puis une fois que ce sera propre et qu'on aura tout mis en place, après on va sanctifier, consacrer les prêtres, et puis on se met au travail, on commence le service. Et c'est pas dans cet ordre-là qu'il le fait, il commence par les hommes, et ensuite les lieux. L'œuvre de Dieu se fait par des hommes sanctifiés. Et si je sais que souvent la tendance, et même dans nos églises parfois, ben bon, celui-là il a le talent, il sait faire ça, donc on lui donne ce travail dans l'église. Un talent naturel n'est pas une qualification pour le service dans l'église de Dieu. L'église de Dieu se fait par des gens, pas premièrement qui sont consacrés à Dieu. Je vous rappelle dans Actes chapitre 6, quand il y a eu un problème du service des tables, hein, c'était la distribution de la nourriture aux pauvres, hein, aux veuves, aux orphelins, ceux dans le besoin. Et donc il fallait quelqu'un pour un peu gérer les tables et la distribution. Vous dites, mais ça c'est rien de spirituel, hein, n'importe qui, n'importe quelqu'un qui est libre, qui n'a pas rien à faire, ben, il peut le faire. Non, non, c'est pas comme ça que les apôtres l'ont pris. Ils ont dit, choisissez des hommes qui aient un bon témoignage, premièrement, et deuxièmement, des hommes remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Ça c'est pour servir les tables, c'était pas pour faire des prédications, hein. C'est pas pour présider le culte, c'est pour servir les tables. Et ici, c'est le même principe que nous avons ici, Ézéchias a compris cela. L'œuvre de Dieu, l'œuvre dans le travail dans se fait par des personnes consacrées. Et je crois que c'est un tort qu'on a dans nos églises, d'un peu, on recrute, c'est pour fidéliser. Non, non, on prend des gens fidèles d'abord, et on leur confie des tâches, parce que chaque tâche dans l'église, c'est une œuvre spirituelle. Que ce soit le ménage, que ce soit l'accueil, que ce soit la réparation. À partir du moment que c'est fait pour le Seigneur, c'est une œuvre spirituelle. Et donc, il dit d'abord sanctifier les hommes. Bon, les Lévites, il dit, ils sont déjà, hein, Dieu les avait déjà choisis. Oui, mais ils s'étaient éloignés. Il fallait purifier leur vie, purifier se reconsacrer à lui. Et une fois qu'ils étaient consacrés, après, Ézéchias dit, bon, maintenant, vous pouvez faire le ménage. Et c'est bon, vous savez, si vous laissez un bâtiment pendant quelques années, comme ça, abandonné, vous savez ce qu'il y a dans le ménage, hein. Il y a de la poussière, il y a des ordures, il y a à savoir tout ce qu'on peut rencontrer. Et il dit, mais j'insiste sur le fait, d'abord la sanctification des prêtres. Et je ne vais pas aller dans le processus, mais si vous allez dans Exode 29, c'est comme ça qu'on a sanctifié les prêtres. Hein. Il y a tout un processus de sacrifice et tout cela, hein, pour confession des péchés. Ils posent leurs mains sur la victime, confessent leurs péchés, expiation, et après consécration, et puis ils sont oints, onction sur ces hommes. Et tout cela, c'est une consécration. Il y a toute une cérémonie. Ça, c'est pour commencer à faire le ménage dans le temple. Ensuite, il a dit, vous allez sanctifier le temple. Et pour sanctifier le temple, et là, ça se fait aussi dans deux étapes, la sanctification de la maison. D'abord, vous sortez ce qui est impur. On commence par sortir ce qui est impur. Des fois, on a envie de commencer la vie chrétienne et puis après, bon, par-dessus tout ce qui existe déjà. Non, non, il dit déjà, tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui n'a pas sa place. Et nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit en nous si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons confessé notre péché à Dieu, nous avons demandé de nous sauver. Et donc, à tous ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à l'instant même, nous recevons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est là, et lui, il est prêt à nous aider à trier, hein, ce qui est dans notre vie. Hein, il le fait avec nous. Heureusement qu'il ne jette pas tout, hein, le premier jour, hein, c'est pas en une nuit, mais il y a des choses, on commence, et petit à petit, il nous montre des choses, il dit, mais ça sert à quoi? Et ça, c'est pour qui? Et ça, est-ce que c'est un obstacle, c'est un frein dans ta vie spirituelle ou est-ce que c'est un avantage? Et puis, il est là avec nous et petit à petit, on est en train de remplacer, hein, de rejeter ce qui ne correspond plus et puis de garder ou de recevoir ce qui correspond à notre vie spirituelle. Donc, il dit, d'abord, c'est de sortir tout ce qui est impur. Et lorsque nous voulons revenir au Seigneur, nous voulons reconsacrer notre vie au Seigneur, eh bien, il dit, commence par te consacrer et ensuite commence à enlever ce qui ne correspond pas. Et ensuite, vous savez, je continue à lire au verset 6, donc 2 Chroniques 29, verset 6, il dit, car nos pères ont péché. Et ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ils ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, éteint les lampes. Et ils n'ont offert à Dieu l'Éternel, à Dieu d'Israël, ni parfum, ni holocauste dans les sanctuaires. Ainsi, aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Donc il a dit, non seulement est-ce que maintenant il va falloir faire le ménage et sortir tout ce qui ne correspond pas, hein, parce que si vous lisez dans les chapitres précédents, vous voyez que à différents moments, ils ont introduit d'autres divinités, ils ont construit d'autres autels à d'autres dieux, il y avait de tout. Il y avait un temps où ils s'en servaient pour autre chose. Ou bien c'était en parallèle. Écoute, tu vas adorer l'Éternel, tu vas dans ce coin. Ceux qui voulaient adorer les astres, ben, ils se mettaient de ce côté-là. Et puis, il y avait un peu de tout dans ce temple. Donc, nettoyer, ce n'était pas juste un petit projet. Ça leur a pris même une semaine entière pour sortir tout cela. Mais ensuite, il dit, mais ce qui est aussi. Ce qu'il fallait, il fallait rallumer les flammes sur le chandelier. Hein, vous vous souvenez, les chandeliers avec les sept lampes. Et puis après, il fallait rallumer le feu sur l'autel des parfums, parce que ça, c'était un feu qui ne devait jamais s'éteindre. Le chandelier ne devait jamais s'éteindre. Et puis, il y avait aussi le feu sur l'autel des sacrifices. Et là aussi, c'était un feu qui ne s'éteignait jamais. Et c'était un feu qui s'était allumé, pas par les hommes, mais par l'Éternel. Hein. Donc, dans le tabernacle de Moïse, quand il a construit, quand il a mis les choses en marche, et alors, dans Exode 25, verset 9, il nous dit que le feu de l'Éternel est descendu et allumé sur l'autel des sacrifices. C'est le feu de l'Éternel qui a mis le feu. Après, c'est pour ça qu'il fallait l'entretenir. Et c'est de ces cendres de là qui portaient dans l'autel des parfums. Et c'est avec ce feu-là qu'il allumait les lampes. Hein, donc c'était, et on devait le préserver et on voyageait avec et tout, on le gardait. Après, ça a été perdu. Salomon a reconstruit a construit un temple. Et là aussi, eh bien, l'Éternel a dû allumer ce feu. De Chroniques, chapitre 7, verset 3, là aussi, eh bien, nous avons le peuple est là, et puis le feu descend du ciel, et on met les choses là. Ici, tout est éteint. Je n'ai pas d'indication comment ils l'ont rallumé. Est-ce que quelque part, il y a eu des Lévites qui ont entretenu des braises, quelque part, pour allumer, je ne sais pas. Mais en tous les cas, normalement, l'autel, ben, c'était avec un feu allumé par le Seigneur. Et puis ça va être détruit, hein, parce que vous savez, par la suite, bien, Nebuchadnezzar viendra et détruira le temple de Salomon. Et après, vous avez le temple d'Hérode, et je ne sais pas, le temple d'Hérode, avec quoi il faisait, avec quel feu il a fait. Mais tout ça, c'est... Mais la question, c'est, il faut rallumer le feu. Et rallumer ce feu qui permet l'adoration et ce feu de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas justement seulement avoir l'Esprit de Dieu présent, mais l'Esprit de Dieu agissant, hein, en nous. Et donc tout cela fait partie de cette préparation pour qu'il y ait adoration, pour qu'il puisse y avoir adoration. Il y a un certain ordre dans l'adoration, parce que, vous vous souvenez, Moïse a fait le tabernacle selon le modèle que l'Éternel lui avait montré sur le mont Sinaï. Donc il n'a fait que reproduire le modèle que Dieu lui a donné. Et ceci nous est rappelé aussi dans Hébreux chapitre 8, que c'était selon le modèle que Moïse a fait. Et dans le modèle, eh bien, on passait premièrement par l'autel des sacrifices. Hein, c'était ça, la première chose. Le premier meuble qu'on rencontrait en entrant dans le parvis, c'était l'autel des sacrifices. Donc on règle le problème du péché d'abord, avant d'aller vers Dieu. Et toujours, et c'est vrai, et c'est une vérité encore aujourd'hui, pour l'enfant de Dieu, on commence par régler le problème du péché, confesser notre péché pour adorer Dieu. Il y a des gens qui arrivent comme ça, de la nature, de l'extérieur, du monde, et puis ça comme ça, puis hop, en avant la musique. Et oui, mais il n'y a pas... Non, on n'est pas... Il faut régler la question du péché. Confesser le péché. Bien sûr que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, mais le sang de Christ, ce n'était pas pour rien. Hein, s'il aurait pu s'en passer, il l'aurait fait. Et donc, il y a cette purification, cette consécration, cette purification, et cette purification est nécessaire lorsqu'on s'approche de Dieu. Sans parler de louange et d'adoration. Hein. 1 Timothée, regardez avec moi dans 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, et au verset 8... Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, ça c'est bien, hein, mais c'est pas un point, il n'y a pas un point final. Il dit, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est-à-dire qu'avant de prier, hein, avant d'avoir cette prière d'adoration, eh bien, il faut avoir réglé les choses sans colère. La colère, c'est une... Il y a une juste colère, mais il y a aussi les colères qui sont provoquées parce que nos intérêts sont pas été reconnus. Et puis il y a les mauvaises pensées. Ils disent, on ne vient pas comme ça Vous savez, comme disait un, j'oublie son nom, mais disait dans la prière, je prie pendant un temps avant de commencer à prier. C'est pas tout de suite comme ça, parce que j'ai commencé à dire Seigneur Jésus ou Père Céleste, tout d'un coup je suis en train de prier, mais je rentre dans la prière. Et vous savez, et en général, 5 minutes, ça ne suffit pas. Hein? C'est quelqu'un d'autre qui disait, quand tu pries, est-ce que tu pries? Quand tu pries, est-ce que tu pries? Est-ce que c'est vraiment... Ou bien tu es en train de... C'est une habitude, c'est un automatisme, c'est quelque chose que tu... Ou est-ce que vraiment tu es en train de prier? Donc, ça se prépare. La prière, c'est une... Bien sûr, il y a l'urgence, et Seigneur, secours-moi. Ça, c'est autre chose. Mais c'est la prière où on est en train d'adorer le Seigneur. On rentre dans la présence de Dieu et on lui dit des choses, mais ça ne se fait pas comme cela. Il y a aussi un autre passage. Où est-ce que je suis là maintenant? Bien sûr, il y a 1 Thessaloniciens chapitre 4. Aussi, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et je lis les versets 1 à 7. Il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est cela ce que vous faites. Et nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, donc dans cette démarche de vouloir plaire à Dieu, de vouloir être acceptable à Dieu, hein, dans cette démarche. Il dit, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc ne vous contentez pas de ce qui a été bon aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis arrivé dans cet état-là et le Seigneur m'a bien reçu. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'a reçu ce jour-là, que je peux le faire n'importe comment. Au fur et à mesure que j'avance dans la vie chrétienne, le Seigneur devient plus exigeant. Hein? Ceux à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera redemandé. Il dit, verset 2, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Donc, s'approcher de Dieu, hein, ce n'était pas juste une question de dire « on a ouvert les portes du temple », mais c'était une question de purification, de sanctification des hommes, et ensuite de la vie, de tous les jours, de sa semaine, de ses activités. Parce que, comme nous rappelle Pierre, il dit, vous êtes saints, vous devez être saints parce que Dieu est saint. Hein? Et cette saint, ça ne veut pas dire que... ça veut dire que c'est consacré à lui, hein, c'est tout pour lui. Donc cette purification est nécessaire. Donc quand ils ont ouvert le temple, c'était oui, il fallait ouvrir les portes, mais ensuite il fallait préparer les hommes qui allaient servir, qui allaient, et puis ensuite préparer le lieu, purifier ça, afin que... on puisse avoir, et c'est ce qu'on verra dimanche prochain à partir du verset 20, qu'il y a après là, ils vont commencer les holocaustes, ils vont commencer l'adoration, et puis vous allez voir qu'il y a un certain ordre, il y a d'abord l'expiation pour les péchés, ensuite il y a les holocaustes, et après ils vont se prosterner, et après ils vont chanter, et puis après, et ce sera merveilleux, mais on ne peut pas sauter les étapes. Hein? Je sais que de nos jours, on aime bien faire les choses vite. Hein. Les repas à la va-vite, service au volant, tout le cas. Mais non, mais quand il s'agit de Dieu, eh bien, les choses doivent se faire dans l'ordre. Prenons les choses sérieusement. Et Ézéchias a trouvé ça nécessaire et utile de procéder de cette manière-là. Et le Saint-Esprit a jugé utile de nous donner tout ce récit pour que nous puissions l'étudier et comprendre ce qu'il recherche, parce que ces choses ont été écrites pour notre enseignement, n'est-ce pas? Et donc que le Seigneur nous aide dans notre marche avec le Seigneur. C'est pas juste une question j'aime Jésus, Jésus m'aime. C'est très bien, c'est merveilleux. Mais si je veux vraiment vivre pour le Seigneur, et ce qui est normal, hein, eh bien, il y a un nettoyage à faire dans notre vie, et notre corps devient réellement un temple. Pas seulement qu'on met un panneau sur notre vie, on dit voilà, ce corps appartient au Seigneur, hein, je suis chrétien. Non, non, mais que ce soit réellement un temple, un lieu où lui est à l'aise, hein, où il est chez lui. Que le Seigneur nous aide dans tout cela, et que nous puissions, peut-être que le Seigneur vous a, ce matin, vous a montré quelque chose dans votre vie qui ne correspond pas, qui ne devrait pas être là, peut-être une priorité qui ne devrait pas être là, peut-être la démarche est pas bonne, vous avez essayé de. Eh bien, ça c'est entre vous et le Seigneur, et je vais vous donner quelques moments de silence pour que vous puissiez déjà commencez à parler au Seigneur par rapport à ce qu'il vous a montré, et puis ensuite je prierai.